Un rendez-vous, un partage, votre vie de tous les jours.
C'est RDL.
C'est entre nous.
La musique et votre vie au quotidien.
Entre nous, jusqu'à 11h.
Bonjour, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau petit matin. C'est le jour des enfants aujourd'hui, mais peut-être pas tout à fait. Ce sera aussi le jour des couples, des bons couples. Ceux même qui filent du mauvais coton, comme dirait l'autre. Eh oui, la vie à deux, que voulez-vous. C'est pas toujours un long fleuve tranquille et parfois surgissent des problèmes dans le couple. Alors, il existe de nombreux sujets qui fâchent. Je suppose que nous les évoquerons avec nos invités ce matin. Je pense à l'argent, la routine, l'infidélité, la famille, la baisse de désir, par exemple. C'est un peu le quotidien. Bon, on a presque envie de vous dire, pas de panique. Tous les couples rencontrent des problèmes à un moment ou à un autre. Ça semble normal dans une vie. On va pas forcément envisager la rupture à la moindre difficulté. Et ce matin, on a peut-être des solutions. Quand ça va pas bien, il faut penser à la thérapie du couple. Et nous avons des spécialistes. Il n'y a que des femmes dans le studio. Géraldine Lambert, Laetitia Rollet et Laurie Longuépé. Toutes les trois sont psychothérapeutes. Elles sont à l'écoute du couple lorsqu'il y a un problème. Et peut-être même avant qu'il y en ait un. On va les écouter pendant 1h15 et cela vous rendra peut-être service, en tous les cas on l'espère. Mesdames, bonjour, Géraldine, Laetitia et Laurie. Donc face à moi j'ai Géraldine là-bas, bonjour.
Bonjour.
Alors vous aurez évidemment toute la parole, prenez-la quand bon vous semble. Je ne voudrais pas avoir de problème avec vous, ça engendrerait forcément une thérapie tout de suite. Quand vient-on vous voir? Est-ce que ce sont les raisons un peu que j'évoquais dans le préambule? Aujourd'hui, l'argent, la routine, on parle beaucoup d'infidélité également. Est-ce que ce sont des sujets qui sont un peu votre quotidien? Est-ce que ce sont les sujets que vous êtes amenés à traiter dans le cadre des thérapies que vous proposez au couple?
Oui, tout à fait. L'infidélité, c'est un facteur effectivement déclenchant d'une thérapie. Très souvent, les problèmes de communication dans le couple, c'est-à-dire un couple où on
qui ne se parle plus.
Qui ne se parle plus, mais on a oublié de s'occuper de son couple. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on construit son couple et puis les enfants arrivent. On se laisse un peu déborder parce que tout ce que représente la charge des enfants. Et puis on oublie de passer du temps pour son couple, on oublie de le construire et à un moment donné, on se regarde et on se dit mais la distance qui est entre nous, il faut qu'on fasse quelque chose, on a envie de se retrouver.
Est-ce qu'il y a toujours des choses à faire quand même quand ça arrive ou est-ce qu'à un moment il est trop tard ou est-ce que l'on peut, qu'est-ce que vous conseillez de faire justement pour qu'il n'y ait pas de brèche qui s'installe entre l'homme et la femme?
Oui, alors c'est vrai bien évidemment que ça arrive que quelquefois ce soit trop tard. Mais bien souvent, pour éviter ces brèches, on conseille quand même beaucoup aux couples de passer du temps à deux tout le temps. C'est-à-dire de se dégager du temps chaque année pour passer un week-end à deux, une soirée par mois de temps en temps ensemble. Mais vraiment, construire son couple au quotidien et ne pas l'oublier pendant des années, ça c'est essentiel.
Pourquoi ça arrive? Beaucoup de gens oublient de vivre ensemble aujourd'hui?
Tout à fait. Au bout d'un moment, les gens cohabitent, conduisent les enfants à droite, à gauche, s'occupent d'eux et puis oublient complètement à la fois qu'ils sont des individus, qu'ils ont besoin de se construire et de faire des choses pour eux et encore plus de faire des choses pour leur couple.
Ça veut dire que la routine est quelque chose de grave tout compte fait?
Ah oui, la routine, c'est quelque chose qu'il faut absolument gérer. Il faut savoir que la routine s'installe et donc il faut mettre en place des choses et s'obliger à mettre des choses en place pour continuer à construire son couple et sa famille.
Mmh. Est-ce que l'argent est un problème qui peut entacher le couple également?
Oui, tout à fait. On voit bien d'ailleurs, on n'est pas obligé de gérer son argent de la même façon. Certains couples ont des comptes communs, d'autres couples ont des comptes séparés.
Mmh. Et c'est pas problématique justement d'avoir un compte séparé par rapport à sa femme?
C'est pas problématique si ça convient aux deux personnes. Maintenant, quand il y a une grosse différence de revenus d'un côté par rapport à l'autre, quelquefois c'est problématique parce que l'un se sent lésé.
Est-ce que c'est pas une force de méfiance que de séparer les comptes comme ça et de ne pas laisser un compte commun? Enfin, ça me choque un peu, non?
Je comprends méfiance, je dirais pas ça. C'est en tout cas la façon dont le couple a voulu construire son histoire. Du moment que ça leur convient bien à 100% à tous les deux, il y a aucun problème. Là où c'est plus problématique, c'est si c'est imposé à l'un au détriment de l'autre.
Enfin, dans la tête des gens, c'est bien d'avoir un compte commun. Moi, j'ai un compte commun, mais je donne pas de chéquier, par exemple. Vous voyez, comme ça. Bon, la baisse de désir, justement, est-ce que c'est un facteur qui... oui, vous pouvez intervenir à Géraldine. Est-ce que la baisse de désir peut être aussi un facteur qui peut entacher un couple?
Oui, très souvent, la baisse de désir toujours à cause de la même chose, j'ai envie de dire, hein, la routine, la vie quotidienne.
Parce qu'on s'est oublié tout compte fait.
Parce qu'on s'est oublié, et voilà. Et cette intimité qu'on n'a plus dans la relation, on ne l'a plus non plus dans la sexualité. Ouais. Donc la baisse de désir, c'est vraiment un facteur de consultation très important.
Alors, est-ce qu'il y a des solutions pour faire face justement aux problèmes de couple ? Oui, je pense, on y revient tout de suite. Je suis avec Géraldine Lambert, Laetitia Rollet et Laurie Longuépée, trois femmes. Je ne sais pas si elles sont mariées d'ailleurs, toutes les trois.
Oui, je suis mariée.
Vous êtes mariées toutes les trois, donc elles savent de quoi elles parlent. et elles nous évoquent ce matin les thérapies de couple quand ça ne va pas, pour les problèmes que nous avons évoqués tout à l'heure. Les thérapies de famille également, parce qu'il y a plein de familles qui connaissent de nombreux soucis. Alors, si vous en êtes, si vous avez justement des problèmes de couple, vous aimez votre mari, mais vous vous rendez compte que ça va pas, eh bien, vous pouvez nous appeler ce matin pour nous parler de cela, et elles sauront sans doute vous donner quelques conseils. Elles ont un cabinet, elles reçoivent, évidemment, on parlera de leur adresse et de leur numéro de téléphone tout à l'heure. 03 21 12 60 60, c'est notre numéro de téléphone. Si vous souhaitez intervenir pour nous raconter un peu vos souffrances, elles pourront sans doute vous aider à trouver les solutions qui s'imposent. Alors, mesdames, on va peut-être évoquer les sujets qui peuvent poser problème au sein d'un couple. Bon, on a évoqué l'argent, la jalousie, etc. Est-ce qu'une addiction de l'un des deux, je pense par exemple au papa qui est addict du foot, par exemple, rien ne compte, il y a que le foot. Il y a beaucoup de femmes qui souffrent de ça.
Tout à fait. C'est vrai que l'addiction dans un couple, alors que ce soit effectivement sur une activité sportive ou d'autres addictions, hein, parce qu'effectivement, on peut y avoir l'alcoolisme, la drogue, etc. chez certaines personnes. Effectivement, ça pose souci pour l'autre membre du couple qui ne se sent plus exister. Hein, donc, vous parliez du foot. Donc, un monsieur qui serait effectivement fervent du foot ou de sa voiture pourrait laisser entendre à sa femme que c'est une priorité pour lui et que sa femme n'est plus prioritaire.
Ça existe, hein.
Tout à fait.
Un homme radin également, ça peut faire souffrir une femme, la radinerie là, chez les hommes de temps en temps.
Oui, tout à fait. Hein. Mais c'est-à-dire que dans un couple, il faut bien se rendre compte que chacun est toujours à l'affût des marques d'amour de l'autre. Mmh. Et que chaque chose qui pourrait peut-être être interprétée comme un manque d'amour va forcément être interprétée comme un manque d'amour.
Est-ce que c'est un problème quand, dans un couple, la femme gagne plus d'argent que l'homme ?
Alors c'est pas forcément un problème, c'est ce que disait tout à l'heure Géraldine, c'est tout dépend aussi de l'histoire du couple, à l'origine du couple. Si le couple a construit sa vie avec une dame qui professionnellement gagne plus que son mari, ça peut être très bien vécu. Après, si effectivement le mari a rencontré des difficultés dans sa carrière professionnelle et que sa femme, elle, a été mise en avant par sa carrière professionnelle et effectivement ramène l'argent du ménage, ça peut être très mal vécu par monsieur, voilà, qui peut se sentir délaissé. Et tout dépend aussi des valeurs qu'a reçues monsieur dans son éducation. Et nous, en thérapie, on va aussi revenir là-dessus.
Est-ce que les problèmes sexuels dans le couple constituent parfois des envies de se quitter, créent de vrais problèmes, la baisse de désir par exemple, ou lorsque les gens ne prennent plus vraiment de plaisir au lit? Comment on peut supporter, surmonter, je veux dire, ces problèmes de couple?
C'est vrai que ces difficultés-là, on les rencontre. Ensuite, je pense que ça dépend aussi de comment on peut parler de cela dans un couple.
C'est compliqué.
Oui, parce que la sexualité, ça fait partie de l'intimité, comme les émotions, comme les difficultés que l'on ressent. Et mais les couples que moi je rencontre ou qu'on rencontre parfois n'ont plus le temps de discuter, n'ont plus le temps de partager de l'intimité, mais de l'intimité déjà émotionnelle. Et donc ces thèmes-là, comme la sexualité. Ça demande aussi de prendre du temps. Il y a des valeurs parfois qui sont difficiles pour les uns et pour les autres. C'est un sujet tabou. Mmh. Et du coup, le sujet tabou renforce encore les difficultés.
Alors, justement, on va évoquer les thérapies que vous proposez lorsque l'on se sent mal, tout compte fait, dans son couple, dans sa famille, dans sa vie. C'est pas facile non plus de se dire je vais accepter une aide extérieure. Alors, qu'est-ce que vous dites aux gens qui hésitent ?
Moi, j'ai envie de dire, quand on a mal aux dents, on va chez le dentiste. Quand on a mal à son couple, on va chez le thérapeute de couple.
C'est pas mal de répondre comme ça. Est-ce que c'est quand même déjà une lourde étape de franchie, de passer, lorsque l'on arrive chez le thérapeute de couple? Parce qu'il faut oser y aller quand même.
Je pense en fait que la thérapie a déjà démarré au moment où la personne prend rendez-vous chez le thérapeute. Parce que de toute façon, il s'est joué quelque chose dans le couple avant de prendre son téléphone et de prendre un rendez-vous chez le thérapeute. Alors, et donc du coup, la thérapie a déjà démarré.
Absolument. Ce que l'on peut dire également, parce que quelquefois ça effraie les gens, c'est que vous n'êtes pas des psys en fait, hein, vous n'êtes pas des psychologues.
Tout à fait. De formation, en tout cas, nous ne sommes pas psychologues.
Alors, donnez-nous un peu quelques exemples de types de thérapie que vous pouvez proposer. Thérapie, ça veut dire soigner, en fait. Qu'est-ce que c'est la thérapie du couple? Alors, commencer une thérapie, c'est une démarche qui est importante, on l'a vu. C'est un chemin à parcourir avec vous, ensemble, qui n'est pas forcément toujours facile. Alors, qu'est-ce que ça requiert chez les personnes?
Moi, je dirais d'abord, il y a déjà la première rencontre qui est importante pour nous. La première rencontre qui permet à l'un et à l'autre de pouvoir exprimer ce qui fait difficulté dans le couple, ce qui fait qu'aujourd'hui, ils nous rencontrent. Et ce premier échange, il est important parce que ça permet à chacun du couple de pouvoir mettre des mots sur les difficultés. Et même si ils en ont parlé ensemble, le fait de venir en cabinet en parler à un tiers, ça c'est déjà une première étape.
Donc on y va en couple, hein. On vient chez vous en couple, on parle en couple.
Oui, tout à fait. Nous, dans notre façon de travailler, on travaille beaucoup sur les interactions entre les personnes. Du fait, ça n'a pas de sens d'avoir monsieur d'un côté, madame de l'autre.
Le problème est à régler pour les deux.
Voilà, le fait qu'ils soient en couple, c'est vraiment aidant et pour eux et pour nous, les aider à les accompagner.
Est-ce que les seniors ont le même type de problème? Est-ce qu'il y a une usure quand on a passé 40 ou 50 ans de vie ensemble? Est-ce qu'il peut y avoir une usure? Ou alors quand on a passé 40 ans de vie commune, on a tout vécu et puis maintenant, on va aller jusqu'au bout sans souci, quoi.
Il y a des changements, en fait, dans la vie d'un couple et il y a des étapes qui sont très importantes. Donc, l'arrivée d'un enfant peut être une étape. Le départ des enfants est aussi une étape. Et vous parliez des seniors et effectivement, la retraite est encore une étape.
Absolument.
Et on peut recevoir des seniors en cabinet qui effectivement se posent des questions sur leur nouveau couple.
Alors justement, on va revenir dans un instant, on parlera de la retraite qui est une nouvelle vie, une nouvelle étape et une nouvelle étape aussi pour le couple parce que des femmes peuvent dire « Oh là là, mais qu'est-ce que je vais faire avec lui dans mes pieds tout au long de la journée alors que je ne l'ai pas vu pendant 40 ans ?» Eh ben, vous allez vous mettre à le supporter. Nous sommes toujours avec Géraldine Lambert, Laetitia Rollet et Laurie Longuepée. Elles sont psychothérapeutes et elles sont à l'écoute des couples, mais aussi des familles. On évoque différentes choses avec elles ce matin, et notamment les problèmes, les soucis de couple. Et surtout, vous donnez aussi à vous qui nous écoutez et qui êtes parfois en souffrance dans un couple, eh bien la possibilité de parler dans le but de trouver une solution. Choisir son thérapeute, c'est pas forcément une évidence, parce que c'est presque de devoir trouver une chaussure à son pied, non?
Ah, tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, on propose toujours aux gens en fin de séance de choisir s'ils souhaitent revenir ou pas, parce qu'on comprend très bien qu'il ne peut pas y avoir d'affinité avec tout le monde. Et quelquefois, c'est vrai qu'il s'agit de changer de thérapeute, parce que le feeling, comme on dit, ne passe pas très bien.
Est-ce que les gens s'ouvrent directement? Est-ce que vous connaissez tout de suite le véritable fond du problème, de façon à pouvoir travailler sur le point essentiel?
Non, je dirais, parce que quand les personnes viennent, elles viennent avec une difficulté et c'est parfois les rencontres, le nombre de rencontres qui nous font dire que cette difficulté, certes, elle existait, mais c'était peut-être pas tout à fait la vraie raison de leur rencontre. Mmh. Et parfois, eux-mêmes ne le savent pas. C'est l'entretien, c'est les échanges, c'est parfois, ça nous donne l'occasion aussi de revenir un petit peu sur leur parcours de vie, sur le passé. Et les choses font que des fois on découvre, on propose des pistes de réflexion pour dire mais peut-être que vous êtes venu avec ce problème et qu'en fait l'explication à tout ça c'est un autre problème.
Mmh. Alors le thérapeute, plutôt homme ou plutôt femme pour un couple?
Aucune importance. L'important, c'est la confiance et le climat qu'on va réussir à installer avec les gens.
C'est la confiance qui prime, en fait.
Tout à fait.
Je suis assez d'accord. Ouais. Mais un homme sera plus à l'aise avec une femme ou avec un homme?
Alors, n'étant pas homme, je ne le sais pas. Mais nous, enfin moi, en tant que femme...
Moi, je pense qu'un homme sera plus à l'aise de se confier à une femme, non?
Peut-être, peut-être. Mais en tout cas, c'est pas quelque chose dont on a le retour.
Bon, je veux dire, quels sont les traitements en tout qu'on fait? Parce que vous n'êtes pas médecin, donc vous ne prodiguez pas de médicaments, vous n'ordonnez pas de médicaments, d'accord?
Non, surtout pas.
Est-ce qu'il y a des choses à faire après?
Moi, parfois, je donne des petits exercices pour les couples.
C'est-à-dire?
Par exemple, ça m'est déjà arrivé.
Le soir entre 23h et 1h du matin, non?
Pas tout à fait.
Non.
Mais des exercices de communication. Par exemple, prendre un temps, une heure par soir, pour se dire, tiens, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va pas. Ça m'est déjà arrivé aussi de proposer à un couple de faire un collage pour que chacun, l'homme et la femme, colle sur une feuille de papier canson. Comment ils percevaient leur sexualité, le sexe, c'était quoi pour eux. Et après, ils reviennent
certains
en
séance. Certains l'ont oublié.
De quoi?
Leur vie, justement, sexuelle, elle est parfois oubliée dans le couple.
Oui, parfois elle est oubliée, mais c'est surtout que ils ont pas forcément discuté entre eux de, pour moi, ce qui est important pour moi dans le sexe, c'est ça, ou pour moi, ça représente ça, et grâce à moi, j'utilise des outils un petit peu intermédiaires, ça permet de représenter des idées, mais au lieu de tout le temps parler, parce que ce qu'on rencontre parfois dans les cabinets, c'est que les couples, les gens parlent, mais ne savent plus s'écouter. Ou en tout cas, c'est comme s'il y avait...
Est-ce qu'ils acceptent de se remettre en question, les couples?
Moi, je pense que les couples qui viennent là sont partants pour une remise en question. Alors, bien sûr, quelquefois, il y a une espèce d'agressivité hein, quand on va les titiller sur le sujet qu'il fallait pas aborder ou quand on a une idée un peu différente.
Mais c'est ce qui va permettre de soigner, en fait.
Mais c'est exactement ce qui va les permettre d'avancer, en tout cas.
Et en fait, le thérapeute, votre rôle, c'est de leur redonner une possibilité de s'exprimer entre eux également.
Oui, c'est
quand vous les titillez justement, ça, là ils vont bondir, donc on va percer un abcès.
Tout à fait.
Un mal pour un bien.
Le rôle du thérapeute, c'est effectivement de permettre de s'exprimer, et là où effectivement nous on va jouer notre rôle, c'est que nous on n'est pas là pour prendre parti ni pour l'un ni pour l'autre. On est là justement pour que ce thérapeute puisse disparaître à un moment donné et que eux, le couple, puissent justement communiquer ensemble.
Bon. Elles sont trois psychothérapeutes, elles sont à l'écoute des problèmes de couple, des problèmes de famille lorsqu'il en existe. Et je pense qu'il est intéressant de prendre un rendez-vous pour parler, parce qu'aujourd'hui on ne parle plus, on est dans l'ère de la communication. Et le problème est bien souvent que les gens refusent le dialogue en fait. Hein, et c'est souvent ça la base, vous le disiez tout à l'heure, la clé des soucis à l'intérieur de bien des couples. Alors, pourquoi choisir justement à un moment donné de sa vie une thérapie de couple plutôt qu'une thérapie personnelle quand ça va pas?
Je pense que on sent très vite si c'est individuellement que nous sommes chamboulés en crise ou si c'est notre couple qui ne nous satisfait plus. Quand c'est le couple qui ne satisfait plus, c'est vraiment l'heure de faire une thérapie. Et les crises sont des moments exceptionnels pour ça, puisque ça nous permet d'intervenir au moment de la restructuration du couple et de les aider à dépasser ça pour arriver sur quelque chose qui les équilibre mieux, qui leur correspond mieux maintenant. On n'est pas pareil en couple au début ou 20 ans après ou 40 ans après, on a besoin de se réadapter.
C'est intéressant ça. En quoi sommes-nous différents alors?
On se connaît mieux. On a vécu des choses ensemble, des joies, des drames. Enfin voilà, on a vécu beaucoup de choses ensemble.
Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une notion de l'un qui fait aussi un effort par rapport à l'autre? Est-ce que les gens restent-ils eux-mêmes tout au long de leur vie de couple? Ou parfois, d'ailleurs, c'est plutôt malheureux, mais quelqu'un s'efface au profit de l'autre. Enfin, il y a des gens qui sont dans des situations où l'un compose. Ça peut être l'homme, ça peut être la femme, mais ça, c'est pas bien et ça arrive, non?
Les fameux compromis, peut-être.
Oui, le compromis du couple, voilà, c'est ça. On dit toujours qu'être marié, c'est faire des compromis. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas?
Oui et non, je dirais que ça dépend aussi de la personnalité de chacun. Je dirais qu'aussi... à quoi ça va servir pour l'un ou pour l'autre de faire un compromis? Peut-être que ça a aussi des effets, on va dire, secondaires. Et donc la thérapie de couple, c'est aussi parfois un moment pour faire un bilan sur le fonctionnement de l'un et de l'autre dans son couple. En thérapie de couple, nous, on dit souvent, il y a 1 plus 1 égale 3, c'est-à-dire qu'il y a une personne individuelle, une autre personne individuelle, mais ça fait une troisième entité qui est le couple. Et une thérapie, c'est aussi parfois se poser pour réfléchir à son fonctionnement. Et nous, souvent, on conseille aux personnes de venir, souvent elles viennent chez nous en crise, dans des grosses crises, et parfois c'est intéressant de venir un petit peu avant la grosse crise.
Quel genre de crise vous avez vécu déjà ?
L'infidélité. Souvent, c'est des grosses crises.
Est-ce que c'est rattrapable, ça, dans la vie d'un couple ?
Oui.
Tout à fait. Après, une grosse crise aussi, ça peut être le deuil. Mmh. Hein, la perte d'une personne chère ou d'un enfant. Donc, ça peut créer effectivement une crise dans un couple.
Mais est-ce que ça ne rapproche pas justement un problème de deuil, un couple qui perd un enfant, par exemple, si évidemment...
On pourrait penser que ça peut rapprocher, et ça peut être le cas pour certains couples, mais ça peut aussi faire dysfonctionner un couple.
Comme ça serait accuser l'un ou l'autre, par exemple, que l'enfant est décédé, faire porter la responsabilité à l'un ou à l'autre. Et donc, du coup, ça nécessite aussi un échange et de discuter. Mmh. Il y a aussi les violences conjugales aussi qui font
partie. Ça existe beaucoup quand même dans la région. Hein. Une femme sur 8 ou 10 est en souffrance, ou ça va même jusqu'à la mort, hein, même dans notre pays. Hein. C'est très important, les chiffres sont alarmants. Hein.
Bien sûr, c'est extrêmement important, mais je pense aussi que c'est important de se rendre compte que, à travers la violence conjugale, on parle d'amour dans le couple, et que c'est pas parce que...
C'est incohérent quand même.
C'est incohérent, mais c'est pas parce qu'il y a de la violence dans un couple qu'il n'y a pas d'amour. Moi, je considère plutôt que c'est parce qu'il y a un amour qu'on n'arrive pas à se dire, qu'on n'arrive pas à faire fonctionner.
Est-ce que c'est pas facile de dire ça?
Pardon?
Est-ce que ça n'est pas facile de dire ça?
Alors, c'est facile et c'est pas suffisant. Mais en tout cas, faut pas l'oublier. On peut pas se dire dans un couple où il y a de la violence, ils s'aiment pas, ils se tapent dessus. Non, c'est pas vrai. Moi, je crois pas. Je crois que dans un couple,
on peut pas dire non plus que c'est parce qu'ils s'aiment très fort qu'ils se tapent dessus.
Je crois que si. Je crois qu'ils s'aiment très fort, mais par contre.
Alors, je n'aime pas assez ma femme.
Ah non. J'ai pas été au bout de ce que je voulais dire. Je crois qu'ils s'aiment très fort, mais je crois qu'ils ne savent plus fonctionner ensemble, qu'ils ont oublié de communiquer, et qu'à un moment donné, la violence, elle arrive comme le seul moyen de communiquer. Bien évidemment que la violence, elle n'est pas acceptable, elle est pathologique dans un couple, mais c'est pas pour autant qu'il faut se dire ce couple ne s'aime pas.
Mais est-ce qu'on n'est quand même pas là au bord de l'anomalie majeure?
Ah, mais la violence n'est pas tolérable, et c'est pas parce que on considère la violence sous ce regard-là qu'elle est acceptable et tolérable.
Alors, il y a forcément du vrai dans ce que vous dites, puisqu'on a souvent reçu des associations de femmes battues ici, et les femmes battues ne partent pas, justement. Elles restent avec leur mari.
Bien sûr.
Et elles ne cherchent pas du tout à partir.
Et c'est bien pour ça qu'on parle d'amour, parce que on a longtemps culpabilisé justement ces femmes qui ne partaient pas.
Ce sont elles qui culpabilisent d'ailleurs, hein, souvent.
Ce sont elles qui culpabilisent en premier. C'est la société aussi qui porte un regard sur ces femmes en disant mais finalement elles le cherchent bien puisqu'elle est retournée avec monsieur. Mmh. Et donc nous on a aussi ce regard différent, et c'est là où on peut parler d'amour. Et généralement dans ces couples-là, il y a aussi des choses à travailler de l'ordre du passé, parce qu'il y a des grosses souffrances chez ces personnes et qui sont aussi qui traînent avec eux, hein, cette carapace, enfin cette souffrance, etc. Et donc du coup nous on est là aussi pour les aider et travailler ça avec eux. Et savoir communiquer autrement que de se taper dessus, voilà, c'est aussi le travail du thérapeute.
Alors l'enjeu d'une thérapie du couple, est-ce que c'est de tout compte fait parvenir au bout du compte à déterminer qui a tort et qui a raison?
Non, nous en tout cas dans le cadre des thérapies, on est là pour donner la parole à l'un et à l'autre. Alors parfois il y a certaines personnes qui peuvent ressentir qu'on prend parti pour l'un ou pour prendre parti pour l'autre, mais l'objectif n'est pas de dire vous avez raison, vous avez tort, mais c'est plus une réflexion commune sur la situation.
Est-ce qu'on peut imaginer qu'un couple c'est comme quelque chose de codé en fait, et quand ça va pas c'est parce que les deux ou l'un ou l'autre ont perdu les codes justement?
Oui, c'est tout à fait ça, c'est-à-dire que les codes sont plus faciles à trouver au début de la relation quand les difficultés sont moindres, même si parfois, moi, j'ai rencontré des couples qui venaient au début de leur relation. Et ensuite, il y a des événements, des bouleversements, des changements de route pour l'un et pour l'autre qui font que les codes, oui, j'aime bien ce mot, peuvent être perdus ou en tout cas incomplets.
Mmh. La thérapie, ou plutôt le thérapeute, à l'occasion d'un rendez-vous, va essayer d'exprimer par l'un et par l'autre les raisons de son insatisfaction par rapport à la relation ou par rapport à l'autre. Lui, il me plaît pas parce que c'est comme ça, ou c'est par rapport à un problème. Est-ce qu'on essaye de trouver la solution au problème, tout compte fait, mais le problème n'est pas forcément l'autre.
Mais tout à fait. Et d'ailleurs, on est très vigilant à ce que la thérapie ne devienne pas une occasion d'enfoncer l'autre et de régler des comptes. Voilà.
Oui.
Venir se disputer en thérapie en disant l'autre m'a fait ci, l'autre n'a fait ça, ne les aide absolument pas. Ça sert vraiment à rien. Une des premières règles, c'est de parler en jeu.
Expliquez-moi un peu comment ça se déroule, la thérapie de couple, quand on arrive chez vous.
Alors, le premier entretien est privilégié. C'est un moment
on
où
on donne une arme à chacun, non?
Ah non.
Ah non,
bon,
d'accord.
Enfin, si, j'ai envie de dire, la meilleure arme qu'on ait, c'est la parole. Et ça, c'est une arme importante. C'est le meilleur outil de défense.
Et en général, comment ça commence? Chacun se plaint de l'autre, en fait. Et c'est un peu le mur des lamentations chez vous, non?
En fait, effectivement, on va démarrer la première séance en essayant de voir un petit peu qu'est-ce qui les a amenés ici en couple chez un thérapeute.
Non, mais moi, j'imagine quand ils arrivent, lui, il rentre tard le soir, il respecte rien. Le mari va répondre, attendez, vous n'avez jamais vécu avec elle est absolument insupportable. Hein.
Ça commence rarement comme ça, j'ai envie de dire.
Ça commence
rarement comme ça.
Rarement comme ça. Bon, ça va alors.
Souvent. Il y a quand même un petit stress de venir chez un thérapeute. Et donc, nous, on est là aussi pour dire chacun va s'exprimer. Et la première rencontre, c'est l'idée de qu'est-ce qui fait difficulté dans votre couple? Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? Et cette première séance permet à la fois de mettre des mots sur les difficultés et déjà parfois d'aborder aussi les difficultés.
Donc le but n'est pas de se plaindre, en fait.
Oui, tout à fait. Et j'avais envie de rajouter pour nous, thérapeutes, c'est très important que le couple puisse repartir en apprenant des choses sur eux-mêmes et sur leur couple.
La plus belle chose, à mon avis, qu'un couple puisse avoir envie de vous dire, c'est écoutez, on vient ici parce qu'on a l'impression d'être un point ultime, un point de non-retour quelque part, et que l'on a envie de trouver une solution pour arranger la situation. Ça, c'est déjà un effort, non?
Oui, c'est déjà un effort, mais il faut aussi être vigilant parce que ça, c'est mettre un enjeu sur la thérapie et sur le couple. C'est-à-dire, c'est ma dernière idée. Après ça, si ça marche pas, eh ben notre couple est fichu.
Mmh. C'est pas vrai, ça, justement?
Oui et non. Ça dépend. La thérapie peut très bien, à un moment donné, ne pas apporter la réponse au couple dans l'immédiat. Et puis, 2 ans, 3 ans, 4 ans après, le couple retrouve des ressources en lui-même. Parce que, finalement... C'est le couple qui arrive à s'en sortir, c'est pas nous qui les faisons sortir de là. Ils arrivent à s'en sortir avec notre soutien, avec notre aide, mais c'est eux.
Alors dites-moi un peu, mesdames, si les hommes ou les femmes vont réagir différemment à l'occasion de ces thérapies.
Je dirais que souvent c'est les femmes qui appellent pour le premier rendez-vous. Mais une fois la rencontre qui commence, elles sont aussi étonnées que leur mari puisse... s'exprimer. Elles partent du principe au départ qu'ils ne vont pas parler et en fin de compte, ou dans l'échange ou pas. Des fois, il y a des supports qui font que
les femmes vont vous dire par exemple, oh là là, il ne dit jamais rien. Moi, je sais pas ce qu'il a dans sa tête. J'essaye de le harceler. Et là, chez vous, il parle.
Ça va mieux, je dirais. Je pense que le fait que ce soit avec un tiers, le fait aussi de réguler les conversations, les échanges, font que chacun a son temps de parole.
Après, pour compléter ce que Laetitia disait par rapport à ça, justement, c'est qu'effectivement, il n'y a pas que la parole qu'on utilise en thérapie, et on a aussi d'autres supports qui peuvent permettre, il y a le non-verbal en fait, qui est très important. Et donc les supports que l'on utilise vont justement aider avec le non-verbal
par
de
exemple,
dire des choses.
Quel type de support?
Alors un exemple, on peut demander à un couple de faire une sculpture. Donc la sculpture en s'utilisant soi-même, et on va leur demander dans cette sculpture quelle est la relation dans votre couple aujourd'hui, quelle était cette relation par le passé. Donc ils vont sculpter cette relation. Et rien qu'en visualisant la sculpture, déjà, il y a des choses qui parlent.
L'idée, c'est aussi de travailler sur l'émotionnel. Comme on disait tout à l'heure, parfois, il y a des couples qui sont très à l'aise avec le verbal, d'autres moins. Et parfois, qu'est-ce qu'on ressent, on l'oublie aussi.
Mais est-ce que l'homme parle peut-être plus facilement avec vous, peut-être parce qu'il a compris aussi que vous n'étiez pas là pour juger?
Tout à fait.
Je pense que ça, c'est important, la relation de confiance.
Oui, tout à fait. Et puis, les gens qui viennent aussi parce qu'ils ont envie de parler. J'ai envie de dire, un monsieur qui a absolument pas envie de parler va pas accepter de venir au rendez-vous. Et c'est vrai que je pense que le climat qu'on instaure, et ça c'est vraiment fondamental dans notre travail, le climat de confiance, de savoir aussi faire taire quelqu'un qui va prendre un peu du temps de parole de l'autre.
Merci mesdames, Géraldine Lambert, Laetitia Rollet et Laurie Longuepé. On était ravis de vous recevoir. Grâce à vous, nous les hommes mariés nous sentons mieux. Vous voyez, on a eu l'impression de faire notre thérapie ce matin.
Hein. C'est très bien, chérie.
Voilà. Merci à vous de nous avoir suivis. On va laisser les coordonnées de nos trois thérapeutes sur le site Radio RDL, rdlradio.fr. Vous retrouverez les numéros de téléphone et les adresses mail dans la rubrique Entre nous sur notre site internet.